Okay, on continue sur le sujet qu'on a commencé hier, le lav d'oraita, l'interdiction de la Torah, de l'otonu ishetamito, de ne pas faire du mal à son prochain. On parle d'un mal psychologique, d'accord? Si quelqu'un blesse son prochain au niveau physique, c'est d'autres lois, ou au niveau monétaire, c'est aussi d'autres lois, mais aussi une interdiction de faire du mal à son prochain. Comment on a vu que ce soit avec la parole, c'est la façon la plus simple et la plus courante, hélas, aussi par des signes, aussi par l'écriture, aussi par des actions qu'on fait. On a commencé à citer hier certains chapitres spéciaux marqués dans le Shulchan Aruch, c'est la base, c'est déjà marqué dans la Mishnah et dans la Braïta, dans la Gemara, dans la loi orale. Shulchan Aruch a repris cela pour nous dire maintenant quelles étaient les grosses lignes d'interdiction. Alors on a vu déjà hier qu'on n'a pas le droit de rappeler le passé de quelqu'un. Quelqu'un, il était pas très bien il y a un certain temps, il est devenu bien aujourd'hui, et il ne faut pas lui faire du mal en lui rappelant sa mauvaise conduite d'antan, vu qu'il a fait tchouva, il est devenu quelqu'un de bien aujourd'hui. Deuxième chose qui est citée là-bas dans le Shulchan Aruch, c'est ne pas lui rappeler la condition familiale. Le cas classique, le plus classique dont on parle et qui est interdit, c'est de faire du mal à un converti, un ger tzedek. La réalité est que la Torah autorise la conversion. Les plus grands du peuple d'Israël, on peut dire, parmi les plus grands du peuple d'Israël, il y avait des convertis, ou des fils de convertis, pas plus loin que le Mashiach. Le Mashiach est descendant du roi David, qui, son arrière-grand-mère, est Ruth Amoavite, qui était une convertie. Hillel, fils de converti, les deux rabbanim de Hillel et Shammai, ils s'appelaient Shmaya Avtalion, et deux-mêmes étaient des convertis, qui étaient les grands rabbanim de la génération, les dirigeants de la génération. Rabbi Meir Balanes, Rabbi Meir, d'accord, qui ne connaît pas, la Gemara dans Gittin dit qu'il est descendant de Néron César. Dans l'histoire latine, c'est marqué que Néron est devenu fou. C'est vrai, il s'est converti. D'accord. Ils disent qu'il est devenu fou, et qu'il a mis le feu à Rome. Notre version, c'est qu'effectivement, il s'est converti. Et de ses petits-enfants est né Rabbi Meir. Qui d'autre en a encore comme converti? Il y a beaucoup de grands.
Rabbi Akiva.
Rabbi Akiva, Ben Yosef Aguer, fils de Yosef, le converti.
Onkelos,
c'est la traduction que nous avons en araméen. Onkelos, Aguer, aussi le converti. Donc, il est marqué plusieurs fois dans la Torah, « Va'avtem et Aguer, vous aimerez le converti. » Maïmonide nous dit, « Regarde, lorsque Dieu nous dit d'aimer notre prochain juif d'origine, comment c'est marqué, « Va'avta l'ereacha. » Tu aimeras ton prochain, mais ça avec un lamed, « l'ereacha. » Lorsque c'est marqué, « Tu aimeras le converti », c'est marqué le même adjectif, le même terme qu'on utilise, « et Aguer, le converti », on utilise le mot « et ». Maïmonide nous dit que dans la Torah, on utilise le même mot qu'on utilise pour dire « Tu aimeras et Hachem Elokecha, l'Éternel ton Dieu ». Nous devons, et regarde, dit Maïmonide, que Dieu a ordonné l'amour du converti de même façon qu'on a ordonné l'amour de Dieu lui-même. Alors que pour le juif, on ne dit qu'un autre terme moindre que le « et ».
Comment on peut honorer un guerre si on n'a pas le droit de dire à quelqu'un « ça c'est un guerre ».
D'abord, si toi tu sais qu'il est guerre,
forcément quelqu'un a fait une
tu dois l'aimer. Il y a beaucoup de gens que nous savons qui que sont des guérims. Pas besoin de faire, il va pas avec un panneau comme ça, mais c'est des choses qui se savent.
Les guérims que je connais pas, je
maintenant, effectivement, il y a des convertis à qui ça dérange qu'on dise qu'ils sont convertis. Bon, alors on ne dit pas. Ça le dérange. Ça, c'est un cas. Par exemple, si tu vas maintenant et tu dis « Viens, 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 tu te présentes, c'est un converti. » Et lui, il est gêné. Même sans être gêné, il est blessé. T'as transgressé l'interdiction de Onat Dvarim, de faire du mal à un juif. Un converti qui est converti comme il se doit, il est juif à tout égard. À tout égard, je dirais. Je n'ose pas dire plus qu'un juif normal. Parce qu'un juif normal, on ne sait pas. Des fois, qui sait, maintenant, peut-être, il y a eu une conversion pas comme il fallait il y a quelques siècles. Et on ne peut pas savoir. Bon, certains, chaque juif, il a une chazaka, il a une présomption qu'il est juif à 100%. Mais lui, il s'est converti, lui, il est devant nous, d'accord? Hier, il n'était pas juif, aujourd'hui, il est juif. Il est juif, gamin, nous. Et c'est vrai, si Dieu nous a ordonné maintenant d'aimer le converti, ça veut dire que chaque ordonnance que Dieu nous donne, ça veut dire qu'on a toujours une pulsion naturelle qui va dans l'autre sens. Il a une tête de pas juif, il a encore des comportements de pas juif, mais il est juif aujourd'hui, d'accord? Et vas-y, aime-le plus que... les gens qui sont petits peuvent commencer, oui, non, mais c'est pas tout à fait la même chose, etc. C'est interdit. C'est interdit. Il y a une histoire qui raconte dans le Talmud que le Kohen Gadol est sorti du donc, Yom Kippour. Le Kohen Gadol, le grand prêtre, rentre sa seule fois de l'année où le plus grand homme du peuple juif, le Kohen Gadol, dans le jour le plus saint, Yom Kippour, rentre dans l'endroit le plus saint, dans le Saint des Saints. La seule fois de l'année où ça, une chose pareille arrive, qu'un homme rentre dans le Saint des Saints. Il rentre deux fois. Et s'il n'est pas au niveau, durant l'année, il meurt. Ou sur place, il meurt dans le Saint des Saints. D'ailleurs, on mettait une corde à son pied pour... parce que personne ne peut aller là-bas, donc on le tirait, on attendait une minute, deux minutes, trois minutes, il ne sort pas. Gamin, il est capoute. Il fallait le ressortir avec une corde. Mais très souvent, il finissait pas l'année. Durant le deuxième temple, on a 420 ans, le deuxième temple a duré 420 ans. Dans les 420 ans, il y a eu plus de 300 Kohanim Gdolim, plus de 300 grands prêtres. Dans ces 80 ans, tu avais un qui était Rabbi Yochanan Kohen Gadol, qui était grand prêtre pendant 80 ans. Tu avais Rabbi Shimon Hatzadi, qui était Kohen Gadol pendant 40 ans. Donc déjà, tu enlèves 120 ans. Il reste 298 grands prêtres pour 300 ans. Donc la majorité n'ont pas fini leur année. Pourquoi ? Parce qu'ils étaient des nuls. D'accord ? La Mishnah raconte même qu'une fois, il y avait un grand rabbin qui s'appelait Rabbi Hanania. Rabbi Hanania s'appelait, on l'appelle Sgan Akohanim. Le second, Sgan, ça vient, le mot second en français vient de chez nous, Sgan. Second. C'était le second des Kohanim. Or, c'est une chose qui n'existe pas, parce que le second du Kohen Gadol, du grand prêtre, lorsque le grand prêtre il est décédé, il devient le premier, il devient lui-même grand prêtre. Mais lui était second des Kohanim, parce que pourquoi ? À son époque, on payait des pots de vin, et les gens devenaient Kohen Gadol à la place du Kohen Gadol. Et lui, restait toujours second. Lui, c'est vraiment un grand chacham. Lui, c'était un grand chacham, il n'avait pas d'argent. Alors, il était toujours second, et les Kohanim Gadolim passaient l'un après l'autre, tous ne finissaient pas leur année, et les gens continuaient comme ça. C'est chacun croyant qu'il est plus stérile que l'autre, et qu'il arrivera à finir son année. Alors, il raconte, dans la Gemara, dans la Mishnah, c'est marqué la Mishnah de Yoma, c'est Zechariah ben Kevutal qui raconte cela. Il dit, je me souviens que très souvent, j'ai dû enseigner la nuit de Yom Kippour, le Kohen Gadol ne dormait pas. De peur qu'il y ait une pollution la nuit de Yom Kippour. C'est pas très bon, deuxième Beth Amikdash. Alors, quelqu'un lui enseignait la Torah toute la journée, toute la nuit, on parlait avec lui de Torah. Il dit, je lui ai lu de la Torah que les passages de la Bible qui sont écrits en araméen. Pourquoi ? Il était tellement ignorant, ce Kohen Gadol, il ne savait même pas parler l'hébreu. La langue parlée à l'époque, c'était l'araméen. Donc il y avait beaucoup de gens qui étaient ignorants. Néanmoins, nous avons une Mishnah, une Gemara qui raconte la chose suivante. Un Kohen Gadol, un jour, sort du Saint des Saints. Il sort vivant. Et tout le peuple d'Israël le raccompagne pour aller chez lui. Tout à coup, qui vont dans la rue, Shmaya et Avtalion, les deux grands rabbins de la génération, des convertis, mais les deux grands rabbins de la génération, il n'y a pas plus grand. En Torah, c'est les plus grands. Tout le peuple quitte le Kohen Gadol, il se retrouve tout seul, et hop, ils vont voir les deux grands rabbins. Le Kohen Gadol, évidemment, il est un peu... Alors il dit, « Bochim Abayim, bienvenue. Bohu le Shalom, venez en paix, Bene Amamin, fils des peuples. » Comme ça, il leur a donné un... « Bon, vous êtes Shmaya Talam, mais n'oublions pas d'où vous venez. Fils des peuples, hein, vous n'êtes pas de chez nous, vous êtes... Alors, ils ont répondu, et dans les lois de Onat Dvarim, dans les lois de faire du mal à son prochain avec la bouche, c'est permis. Si quelqu'un me fait du mal, je peux lui répondre du tac au tac, dans la même amplitude, pas plus. Il me dit, idiot, je peux le dire toi aussi. Triple imbécile. D'accord ? Du même type, je peux le dire. Il me dit triple, je lui dis quadruple, ça revient au même, d'accord ? C'est pas dans le même, je peux pas. Il me fait un mot, et moi je lui fais maintenant deux minutes, je lui fais de discours. Je peux lui répondre dans la même... Dans la même teneur. Pourquoi pas ? Non, la vengeance, c'est quand c'est un plat qui se mange froid. J'ai dit quand c'est du tac au tac. Quand c'est du tac au tac immédiat, ça va.
J'ai pas le droit de faire souffrir mon prochain. Je vois pas.
Mais lui te fait souffrir. Lui il se met lui-même dans une situation maintenant que tu le remets en place. Tu me dis comme ça, je te remets en place. Tu me dis, c'est absolument non légitime, tu me fais un mal sans rien, c'est pas comme ça, même si je suis un triple imbécile, il est fond de le dire, d'accord, tu sais, t'es un peu imbécile, même un peu plus, t'as compris, façon de dire, pas t'es triple imbécile du premier coup, comme ça se fait beaucoup. Alors tu le remets, voilà, vu que lui, il a agi avec toi de façon inconsidérée, tu le remets en place dans la même teneur. Alors eux, ils ont répondu comme ça, ils ont dit que viennent en paix les fils des peuples, c'est-à-dire nous, qui se conduisent comme Aaron à Cohen, comme ton ancêtre à toi, Aaron à Cohen. Aaron, le grand prêtre, donc le frère de Moshe Rabbeinu, était Ohev Shalom, Verodev Shalom. Il aimait la paix et poursuivait la paix. Que viennent Béchalom, que viennent en paix les fils des peuples qui font les actions, qui se comportent comme Aaron à Cohen, et ne viennent pas en paix le fils d'Aaron, le descendant d'Aaron, qui lui ne fait pas comme les actions d'Aaron. Donc ils l'ont remis en place. Là, nous apprenons à quel point nous devons faire attention de ne pas rappeler non seulement le passé, mais les origines familiales négatives que quelqu'un pourrait avoir. Donc, le cas classique, c'est le converti, mais n'importe qui. On est en classe maintenant, et le prof, innocemment, bêtement peut-être, demande aux élèves, chacun, qu'est-ce que son père fait. Alors, lui, il est rabbin, l'autre, il est chorette, l'autre, il est moël, l'autre, il est le gosse, il arrive, il n'ose pas dire que, je sais pas moi, son père est gardien de prison, ou bien balayeur de rue, un truc pas très honorifique, d'accord. Un autre gosse saute, il dit, son père est gardien de prison. Et l'autre, il devient tout rouge, d'accord. Le gosse qui a dit cela a fait honte à son prochain, il a transgressé l'interdiction de Onat Dvarim. Un type s'est fait attraper pour vol. Durant la même semaine, son frère va à l'épicerie. Un vendeur dit à l'autre, fais attention à celui-là qui vient de rentrer, parce que dans la famille, ils aiment bien voler. T'as fait maintenant Onat Dvarim, tu as fait du mal. C'est pas lui qui a volé, c'est son frère qui a volé. C'est pas parce qu'il est... Je ne suis pas le gardien de mon frère, d'accord, a dit quelqu'un un jour. Donc, si ce n'est toi, c'est donc ton frère. C'est pas des choses de chez nous. Il y a le frère et il y a lui. On n'a pas le droit de rappeler le côté négatif familial de quelqu'un en lui faisant honte. Oui, il y avait deux questions là, oui.
Pour le cas d'épicerie.
Oui.
Là, c'est des toilettes, il y a une utilité quand même.
S'il y a utilité. Mais c'est pas, d'habitude parce que quelqu'un, il est... D'abord, comment on le fait? Si vraiment, il y a un risque, le frère, maintenant, il vient de la même bande de mafia que celui qui s'est fait avoir, tu prends discrètement le vendeur, tu dis, comme ça, pas à haute voix. C'était fait dans un esprit de vouloir déranger, de faire mal au frère de celui qui s'est fait attraper. Oui.
J'ai une question aussi. Si par exemple, c'est un converti de voir une fille, et puis alors, cette fille, elle ne voulait pas le voir parce qu'il est converti. Est-ce que j'ai le droit de lui dire, alors, elle ne voulait pas te voir parce que t'es converti? Ou c'est Onat Dvarim?
C'est Onat Dvarim. Ce n'est pas dans l'esprit de la Torah. Ce serait mieux de dire autre chose.
Pourquoi? Même s'il me demande.
Ça lui fera du mal. On peut mentir. Très bonne question. On a le droit de mentir pour ne pas transgresser Onat Dvarim. On a le droit de mentir pour ne pas faire du mal à son prochain. C'est dans l'esprit de la Torah. Le mensonge est extrêmement détesté par la Torah. Mais ce n'est pas marqué, tu ne mentiras pas. C'est marqué, tu t'éloigneras d'une chose mensongère. Une chose mensongère, c'est-à-dire un mensonge qui est fait dans un but intéressé. Mais quand l'intérêt du mensonge est la paix et le bien de l'autre, c'est permis et même mitzvah. On n'appelle pas ça mentir, on appelle cela modifier. C'est bien si possible de dire un mensonge qui s'entend de deux façons. Comme il a fait, comment il a répondu à son père Yitzhak. Yaakov rentre déguisé en Esav, avec une pelisse de fourrure, et Yitzhak demande, qui es-tu? C'est bien toi, mon fils Esav, l'aîné? Yaakov répond, Annie, je suis Esav Bechorecha. Esav est ton aîné. Esav, ton aîné. En hébreu, ça fait Esav est ton aîné. Je suis Esav, ton aîné. Je suis moi je suis Yaakov. Esav est ton aîné, ça veut dire, c'est je sais que l'autre l'entend de la façon qui est mensongère, mais moi je dis qu'on peut, si on connaît ce que je veux dire, on peut comprendre de la façon qui n'est pas mensongère. Ça veut dire un mensonge qui s'entend de deux façons. C'est mieux de faire un mensonge de ce type-là, mais si on n'a pas le choix, ou tu mens un mensonge gros, ou tu fais mal à ton prochain, il est préférable de loin de mentir. On avance. Troisième façon de faire du mal à son prochain. Il y en a beaucoup. Encore une fois, les choses que je dis maintenant sont des choses qui sont simples. Je dirai ça très souvent, mais c'est un cours pour plus mettre en relief pour que nous fassions attention. Comme je dis, c'est tellement courant que si on ne fait pas très attention, alors on transgresse très souvent cet interdit-là. Ça s'appelle Torecha shel Hevel. Faire une correction futile à quelqu'un. Une fausse correction. Par exemple, Chas v'Shalom, quelqu'un tombe malade. Il est à l'hôpital, il a une opération, etc. Et on va le visiter. Ce qui passait avec Iov, Job. Job est très malade. Viennent trois de ses amis le consoler. Très malade, il a perdu ses enfants, il a perdu sa fortune, il était riche, il avait 10 enfants, il avait tout ce qu'il fallait, le mieux au monde. Et tout à coup, patatras, Job, tous les livres de Job. Les trois amis lui disent, Zohorna, Kinaki, Avad, souviens-toi, est-ce qu'il se peut que quelqu'un qui est naki, quelqu'un qui est propre de tout péché, il est perdu, quelque chose de mal lui arrive? Dieu est juste. Donc si tu souffres, mon cher ami, c'est que certainement tu as des péchés. C'est interdit de faire ça. Et il y a une tendance, surtout les gens qui ne sont pas très fins, et qui sont des débutants un peu en Torah, quelqu'un qui est malade ou l'a malheur, il dit, bon, kapara tavonot, t'as sûrement eu un péché, c'est kapara pour ton péché. C'est cruel de dire une chose pareille, c'est interdit. Quoi, j'ai un péché? Quoi, qu'est-ce que t'es de bon Dieu pour me dire maintenant que j'ai un péché? Tu vas aller consoler quelqu'un, console-le. Misken, dommage, mon pauvre, je te plains, je suis avec toi, Dieu aidera, dans ta chaîne, tout ira bien. Qu'est-ce que tu lui dis maintenant? T'es malade, kapara tavonot. Allez, subis en silence, certainement t'as des péchés. Et sois content que ce soit que ça. D'accord, c'est quoi ces manières-là? Ou des fois des choses beaucoup plus graves. Chassé shalom, la alen ou la rechem, quelqu'un y perd un proche. Et quelqu'un lui dit, écoute, moi je pense que c'est arrivé parce que ou lui il a fait ce péché, ou toi peut-être dans la famille vous avez ce problème-là, donc du ciel on s'est vengé comme ça. Et il y a des gens idiots qui font ça. C'est intolérable. Intolérable d'esprit tordu. Et le mal qu'on fait, quelqu'un il souffre, tu viens matin, console-le. Pas à dire Dieu est juste, si ton gosse est parti à l'âge de 20 ans, c'est que dans la famille, il y a une bonne raison qui a fait, vous méritez ça. C'est tu l'as enfoncé. Tu l'as enfoncé. Très grave. Oui, mon cher ami.
Oui, il y a des fois, on peut le dire, mais pas de façon agressive comme ça, mais c'est qu'apparemment, ça peut peut-être soulager l'autre, c'est-à-dire, ben regarde, il y a quelque chose de bien, ça m'enlève des fautes quand même.
C'est pas à toi de
Parce
dire ça.
Parce que l'autre, il a du mal, tant que l'autre, il
non.
a quelque chose de bien.
Non, jamais, on ne dit pas ça. Lui peut dire, capara ta bonne note. Il m'est arrivé un malheur, capara. Mais toi, de dire capara, tu sous-entends qu'il a des problèmes. Ça ne console personne de dire capara. Tout le monde le sait. Tout le monde sait que si Dieu envoie, il y a des bonnes raisons. Qu'est-ce que tu vas lui dire maintenant? Sache, il y a une bonne raison pour laquelle tu souffres. C'est cruel.
Non mais elle s'adit pas, c'est le yéritard. Tout le monde a des...
Je dis, donc tu lui dis rien de nouveau. Lui sait, tout le monde a des problèmes. Personne est propre de péché. Si on souffre, c'est certainement aussi à cause de nos péchés. Va lui rappeler ça. Maintenant il souffre. À quoi ça sert? À quoi ça sert? Console-le. Aide-le. Soit... Il porte le joug avec son prochain. Il y a un poids, tu viens, tu te mets hop dessous, tu es avec lui, tu l'aides, tu le soutiens, pas tu l'enfonces.
Si on casse un verre par exemple, et qu'il y a quelqu'un qui se blesse, un truc bénin, est-ce que. Alors on peut dire capara,
Encore une fois, ça, c'est moins grave parce que c'est pas il a perdu un gosse, il s'est fait mal. Mais à quoi ça sert? Pourquoi tu dis ça? Dis mon pauvre, ça va, t'as pas trop mal? Je peux t'aider, ça va? Dans ta chaîne, c'est bon, au Hachem, c'est pas trop grave. Bon, dis un truc comme ça. Pourquoi tu dis capara? Tu sous-entends maintenant, t'as un péché, t'es pas bien, et grâce à cause de ça, ça est arrivé. Et moi, t'as vu, j'ai pas de péché. Je me suis pas fait mal aux mains. C'est pas juste de faire ça. Et c'est vrai qu'il y a une tendance naturelle chez les gens non construits de le faire. Alors voilà, je vous dis maintenant une chose qu'il faut pas faire. Quatrième chose. Allez dans un magasin, vérifiez le prix d'un article à vendre alors que pertinemment nous ne voulons pas acheter l'article. Et on fait croire au propriétaire ou au vendeur du magasin qu'on veut acheter. Tu as justement ton frère qui est parti maintenant en France, tu veux acheter là-bas une paire de chaussures. Et il te dit, oui, mais combien tu chausses? Bon, 41. Mais quel 41? 41 dans cette chaussure-là, c'est pas 41 dans cette chaussure. Mais écoute, pas de problème, je vais au magasin, j'ai un magasin de chaussures en bas. Il vend trois fois le prix que tu qu'il y a en France. Je vais aller, je vais choisir le modèle. Il essaye, il va là-bas. Le vendeur lui fait ses chaussures. Non, ça va être trop petit, hein, c'est trop grand. Voilà, il marche, ça vous va très bien. Ça va très bien. Ok, merci. Au revoir. Il appelle. Allez, voilà, il me faut du 41,5 de cette marque. Interdit. Interdit. Pourquoi c'est interdit? Plusieurs raisons ont été évoquées dans les Rishonim, dans les rabbins du Moyen-Âge qui commentent ce qui est marqué dans le Talmud. D'abord, que si tu veux, tu demandes le prix. Et te dit, ça coûte 100 shekels. Tu dis, bon, je ne suis pas intéressé. Tu sors, lui, il croit que tu veux acheter. Peut-être en Suisse, enfin en Suisse, je sais que c'est tout à fait comme 100, ça reste 100. D'accord? En France, je ne sais pas, peut-être maintenant, ça change un peu. Ici, on marchande. C'est le monde oriental, on a toujours marchandé. D'accord? Donc tu sors à 100, lui, tu dis, attends, je te fais 5% de rabais. Non, 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 10% de rabais. Justement, à ce moment, il rentre un autre client qui entend 10% de rabais. Lui, il va acheter sa chaussure, l'autre client, et dit, j'ai entendu que vous faites 10% de rabais pour l'autre. Bon, l'autre, c'est un cas spécial. Non, moi, c'est 10% aussi. À cause de toi, tu risques de faire perdre au vendeur un gain, c'est une perte, un manque à gagner qu'il aurait pu avoir. Deuxième raison évoquée par les Rishonim, tu fais perdre du temps. Tu lui fais perdre son temps. Un vendeur, un propriétaire, maintenant, il y a plusieurs clients, tu es là, tu l'enquiquines, pour rien du tout, c'est du vol de temps. Tu lui fais du mal parce que tu lui fais perdre son temps. Troisième raison évoquée, la déception. Lui attendait d'avoir un client, et même des fois il discute avec toi pendant, tu te bats avec lui pendant des heures, tu veux. Il y en a qui aiment bien le sport de marchander. Et on marchande, et on marchande, et on marchande, et à la fin il part. Ok, t'aimes bien jouer, mais lui, là, dis-lui que tu joues, d'accord? Viens, on va jouer au marchand de tapis. D'accord, mais t'as pas le droit, c'est gnevat dat, c'est parce qu'on vole le dat, on vole la conscience de quelqu'un en faisant une chose pareille. Oui.
Donc c'est... La concurrence est interdite, Minatora?
C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire quoi, concurrence? Comment?
J'ai besoin d'un appartement, j'en visite 5, et je fais toutes mes échelles doutes pour que chacun au maximum, et que peut-être que l'agent immobilier, il pense que j'étais
prêt à l'acheter. Non, mais il y a très grande nuance entre ce que tu dis. Toi, quand tu vas visiter maintenant tes 5 appartements, il y a une potentialité que tu achètes cet appartement. Oui ou non?
Oui.
Ça va! Je viens m'écouter, j'ai 5 propositions.
J'ai mon intérêt d'aller voir un prix si je suis surtout pas l'acheter.
Justement, c'est ça qui...
Mais ça, il y a beaucoup de gens qui font ça, rien que pour le sport.
Oui, mais ça, on peut pas
le cas.
Je fais 5 magasins de chaussures et je veux le moins cher.
Ça va. Ça va. Parce que si c'est le moins cher, tu vas acheter. Donc le vendeur, il est prêt à perdre 10 minutes maintenant de s'enquiquiner avec toi, parce que la femme, peut-être, lui, il sera le moins cher. Mais si tu viens, toi, tu ne veux pas acheter certains, tu achètes en France à 3 fois moins cher. Pourquoi tu viens ici? Discuter des prix, voir. Ou montrer maintenant à ton copain, regarde comment je suis bon, je te parie que je t'arrive à la fédération à 50% du prix. Quatrième raison qui sont évoquées dans les Rishonim pour laquelle on n'a pas le droit d'aller demander le prix de façon fallacieuse à un vendeur. C'est tout simplement qu'au bout d'un moment, il va se rendre compte que tu te moques de lui et ça lui fait mal. Il voit que tu n'es pas sérieux, que tu es simplement pour le faire perdre son temps et il s'en rend compte et ça lui fait mal. Dans tous les cas de figure, il est permis d'aller demander le prix d'un article, même si on n'est pas intéressé à l'acheter, si on dit « Excusez-moi monsieur, je ne suis pas intéressé d'acheter votre article, mais ça m'intéresse de voir le prix auquel vous le vendez. » Là, ça, tu étais honnête. Ça marche, il n'y a aucun problème. De même au niveau de la vente. Je mets en vente une chose, je ne suis pas intéressé à la vente. Ouais, j'aimerais savoir maintenant mon appartement, combien il vaut sur le marché. Je sais que je l'ai acheté 100 000 euros il y a 10 ans. Je veux savoir maintenant quel est le prix. D'accord? Alors, je le mets en vente, j'attends de voir qu'il y a des clients, tout ça, et 200 000. Je vois que oui, il y en a qui sont intéressés, il n'y en a pas intéressés. D'accord? Et je fais... Le même chose que j'ai fait dans l'interdiction d'aller faire croire à quelqu'un que je veux acheter son article, là je suis en train de faire la même chose à quelqu'un en lui faisant croire que je veux vendre mon article. Ça va être strictement au même. Dans tous les cas où on va faire du mal à quelqu'un parce qu'on le roule en lui faisant croire qu'on veut ou lui vendre ou lui acheter un objet, ça sera interdit. Donc, ressemble à cela, chaque fois qu'on va faire créer un faux espoir à quelqu'un. Quelqu'un qui, par exemple, il dit à ses enfants, ce soir, on sort tous au restaurant. Tous les enfants sont contents, tout ça, et puis après il leur dit, écoutez, non, c'est une blague.
C'est pour offrir mieux après.
Ça veut dire
on fait croire on va au restaurant, au McDo, et après on va dans un bon restaurant.
Ça, c'est très bien. C'est pas un faux espoir, c'est pas un faux espoir, c'est un espoir que tu fais en plus grand.
C'est bien, parce qu'il y a quand même un moment où de déception. Il y a quand même un moment où...
Non, il n'y a pas de haut, Il dit, papa, on prend un McDo. Non, je vous prends un meilleur endroit que le McDo. Ah, ok, très bien. En plus, c'est plus cachère des fois. Non, bon, voilà. Un sport, hélas, qu'il y a des gens tordus, et il y en a qui aiment bien faire. Ils font un chido rencontre avec une fille, pour rien. Ou peut-être la première fois, il l'a fait, puis après, il fait encore une deuxième, troisième, quatrième rencontre, histoire de faire durer le plaisir. Aucun plaisir, d'accord, mais lui sait très bien que c'est non. Elle, elle se prépare, et c'est pas facile un chidour, et une fille se prépare 2 heures avant son chidour, elle commence à s'attacher des fois, et lui, c'est très, il a déjà mis une croix dessus. Rien de plus cruel que cela. C'est vraiment jouer avec les sentiments de quelqu'un, c'est certain qu'il transgresse l'interdiction de Onat Dvarim. La Gemara raconte que si viennent des... Je ne sais pas comment on dit ça en français. Il y a des gens qui ont des ânes et ils font des caravanes avec les ânes. D'accord ? Des ânes. Bon, des conducteurs d'ânes. Ils arrivent dans une ville, dans un village, et demandent où est-ce qu'on peut obtenir de l'orge, l'orge nourriture d'ânes. Quelqu'un dit, va chez Moshe Cohen là-bas, lui, il vend de l'orge pour les ânes. C'est un mensonge. Ils vont là-bas, il a voulu faire une blague à Moshe Cohen, et à tout coup, il voit 10 ânes qui rentrent chez la maison, il paraît que tu vends de l'orge pour ânes. Interdit. Tu fais souffrir, bien sûr, les 10 conducteurs des ânes, tu fais souffrir Moshe Cohen, c'est une chose interdite. La version moderne, c'est quoi? Un sport que les enfants aiment bien faire ici en Israël, on appelle les pompiers. Allô, venez vite, s'il vous plaît, à l'adresse ta mail, tu dis le nom de ton copain, d'accord, c'est Moshe Cohen, ton ami, voilà, Moshe, ici, voilà, c'est la famille Cohen, au 5 avenue Herzl, venez vite, il y a le feu à la maison. Ah, vite. Les pompiers viennent, tous les enfants sont contents, ils font le messiba, et Moshe Cohen qui sort, ils se moquent de lui, d'accord, terrible.
Ah, c'est terrible. Si la personne va rigoler à la blague. Je dis pas une blague de mauvais goût.
Et les pompiers, ils rigolent?
Non, justement, je dis pas une blague comme ça, mais une autre blague comme ça, mais on sait qu'elle va rigoler, alors...
Tu vas sur un fil très fin. Tu vas sur un fil très fin. Quand c'est de la blague et quand ça fait mal, c'est très fin. Lui rigolera parce qu'il n'a pas le choix, mais ça lui fait mal. C'est pas droit, c'est pas juste. De plus, je raconte une histoire authentique. Quand j'avais 13 ans, il y a eu un incendie chez moi à la maison. Ça arrive. Quelques mois ou années auparavant, à la télévision, j'avais vu que dans les cas d'incendie, il faut rester très calme quand on parle au téléphone. Il ne faut pas du tout rentrer en panique, parce que les gens, ils disent, il y a le feu, ils raccrochent, ils ne donnent ni l'adresse, ni rien du tout. Donc ma mère m'appelle de la cuisine, il y avait un truc dans la cuisine, un grand feu, appelle vite les pompiers, j'appelle les pompiers, j'avais 13 ans, et il faut être très tranquille. Allô, les pompiers, bonjour, il y a le feu chez nous, je donne l'adresse, voilà, je raccroche, tout ça, tant. Comme il faut. J'ai fait comme il faut. Comme ils ont dit, bon, ma mère dit, qu'est-ce qui se passe? Elle était brûlée, la pauvre, et on attendait qu'ils arrivent, et ils n'arrivent pas. À la fin, ils arrivent. Alors ils entrent, ils disent, ah, c'est pour de bon. Ça m'a resté ici. Pourquoi c'est pour de bon? Qu'on appelle pour moi, c'est toujours pour de bon. Eh bien, il s'avère que non. Il y a beaucoup d'alertes de blagueurs. D'accord? Donc, quand tu fais ta blague, les pompiers viendront. Mais tu comprends, ils prennent plus de temps, ils disent, ah, un gosse qui a appelé, bon, on y va, je dis, allez. Terrible. Donc, tu as rigolé, hein?
Restez en Suisse. Pas le feu au lac.
Ouais, pas le feu au lac.
Qu'est-ce qui se passe?
Il y a une histoire terrible, authentique, du temps de Khatam Sofer. Un homme a eu une fille, Mazal Tov, une fille. C'était le shochet de la ville, a eu une fille, une petite fille qui est née. Et dans la rue, il rencontre, ou à la synagogue, il rencontre le Mohel, le circonciseur. Il lui dit, écoute, Mazal Tov, viens chez moi dimanche prochain, j'ai un fils qui est né, et Brit Mila, on t'attend, je veux que tu sois le Mohel. Le Joret habitait dans un patelin, 4 heures de marche de l'endroit où habitait le Mohel. Le Mohel, le même jour, il vient, 4 heures de marche il fait pour arriver là-bas, et là-bas, on t'a fait une blague. Khatam Sofer, il a entendu ça, il a fait démissionner le Shochet. Le Shochet, donc, c'est le égorgeur rituel, lui a enlevé son droit de faire dégorger, jusqu'à ce qu'il paye de l'argent et fasse une merkila en public, un pardon en public, au Mohel. Ce sont des blagues que nous n'aimons pas. Dans le peuple juif, c'est une chose qu'on ne fait pas. Dans le monde entier, d'accord, c'est une chose qui n'est pas droite. Tu fais des souffrances aux gens pour faire rigoler, c'est pas rigolo du tout. Tu dis des blagues. Tu dis à quelqu'un, tu viendras gratter aussi dans la chambre, Rav Shaya veut te voir d'urgence dans son bureau. Le type se lève. vous me cherchez? Non, non, pas du tout, c'est une erreur. Bon, moi, c'est tout. Moi, je lui dis, je ne suis pas au courant de tout ce qui se passe. Non. Il revient, qu'est-ce que tu me charries? Ah ouais, je te fais une blague. Alors, après la blague, tout le monde rigole. Mais quand lui, il entend Rav Shlaga devoir du genre dans son bureau, surtout qu'il y a sûrement quelque chose à se reprocher, d'accord? Donc, dans quel état il monte? C'est pas agréable. De nouveau là, tu transgresses avec une petite blague, comme tu appelles, on a dvarim de horaita. C'est évident. Un sport, et là, ce que des gens malhonnêtes font aussi beaucoup, quelqu'un s'arrête dans la rue, il m'en dit, c'est où la route pour là-bas? Et tu l'expliques là dans le sens inverse. Ça m'arrive très souvent, d'ailleurs, ce genre de choses. Quand je n'aime pas les juifs en France, je sais pas, on tombe sur beaucoup d'antisémites, je ne sais pas. Ou bien je comprends rien du tout à ce qu'ils me disent. Un me dit par là, l'autre me dit par là, c'est marrant. On doit faire vraiment aller à la majorité pour savoir où est la bonne direction. Donc, dans tous les cas, on peut faire une erreur à quelqu'un dans ce sens-là. Pour rigoler ou pas pour rigoler, on transgresse, on a hâte de voir une transgression, de faire du mal à son prochain avec la parole. Dévoiler le manque d'intelligence de quelqu'un. On a le droit tout à fait pertinent et légitime. On est à table, on est entre copains, on parle de n'importe quel sujet. Chacun montre qu'il sait, il pose des questions. Et peut-être pas tout le monde sait répondre. Et il montre que lui sait, aucun autre sait, c'est permis. Mais quand il y a des cas où ça peut faire très mal à quelqu'un. Quelqu'un, par exemple, qui est censé être un chacham, un sage, ou un rabbin dans une yeshiva, ou vous, quand vous rentrez dans vos familles, vous êtes déjà quelqu'un qui a fait six mois de yeshiva, il a appelé rabbin par la famille, d'accord? Et un type, ça fait déjà quelques jours qu'il a été vérifié une question dans tous les sens, tous les recoins, à l'envers et à l'endroit. Une question qui a l'air simple, mais qui n'est pas simple du tout. Dis-moi juste, tiens, je suis content, j'ai une question là, ça m'est arrivé l'autre jour. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Et le rabbin répond comme il pense, comme ça, à prime abord, sans comprendre tout le côté pernicieux de la question. Après, je lui dis, écoute, c'est marrant, tu dis comme ça, parce que moi, j'ai vu ce poste qui dit comme ça, l'autre il dit autrement, et t'en fais carpette, t'en fais rien du tout. D'accord? Le rabbin, tu l'as ratatiné. C'est interdit. C'est interdit. Pas tout le monde est censé savoir tout, sur tout, sur tout. C'est un rabbin, c'est un rabbin du quartier, c'est un rabbin de la ville, c'est pas le grand chacham du monde entier. Même un grand chacham, si toi maintenant pendant un mois tu t'enfonces, tu approfondis une question et tu en connais tous les côtés, tu ne peux pas venir de façon innocente poser une question. J'étudie bien ce problème, ça fait un mois que je lui dis, j'ai une question, voilà, il y a ce côté-là, il y a ce côté-là. Qu'est-ce qui est plus juste de faire? Là, c'est honnête. Il peut te dire, écoute, c'est bien, je vais étudier, je vais regarder la question, mais pas. Ou des fois, entre copains, voilà, tu as une question, tu sais très bien qui ne saura pas. Moshe, d'accord? Moshe Cohen, de nouveau. J'ai une question, messieurs. Un cas comme ça. Tiens, Moshe, qu'est-ce que tu en penses de ça? C'est très bien qui ne saura pas. Pourquoi tu poses la question? On peut ici friser un autre interdit qui est grave. C'est marqué que celui qui transgresse cela, qui est habitué à transgresser cela, il n'a pas peur au monde futur. On l'étudiera plus approfondie ultérieurement. Ça s'appelle Hamitrabed Biklon Havero. Il s'honore par la honte de son prochain. Quelqu'un que des honneurs te reviennent, ça va. Mais quand tu t'honores par le fait d'enfoncer l'autre, comme ça, pour mettre en relief ta grandeur à toi, Enlo, il n'a pas part au monde futur. Terrible. C'est une chose qui est facile à transgresser. Quand on est habitué à faire cela et qu'on ne fait pas de chouva, bien sûr.
Quand on est dans un cours avec un rab et qu'on est persuadé que le rab s'est trompé.
Oui.
Est-ce qu'on peut le reprendre? Même s'il fait une faute de français ou le pshat qu'il a énoncé, on le sait pertinemment, c'est une erreur. On doit se taire ou lui dire après tout seul
En Torah, il n'y a jamais se taire. Mais il y a avec respect. Quoi d'arabe? Peut-être qu'on peut dire autrement, je comprends pas. On pourrait pas dire comme ça? C'est honnête. C'est honnête.
Bon, on peut lui faire une sorte de honte, entre guillemets, en public, même si lui, il est humble, tout ça.
Ça, c'est inhérent à la Torah. C'est inhérent. Le rabbin Shmuel Zalman Auerbach, qui était un des grands rabbins de la génération passée. D'accord? Son fils aujourd'hui est une des forces montantes. Il n'a que 80 ans, il fait partie des 5 grands, mais pas des 3 plus grands. D'accord? Le rabbin Shmuel Auerbach, son père, c'est le rabbin Shmuel Zalman Auerbach, qui était un des grands incontestés grands de la Torah. Il était le Rosh Yeshiva de la Yeshiva Kol Torah. Donc, il y avait le comité de direction de la Yeshiva qui cherchait un Rosh Yeshiva, qui cherchait quelqu'un qui pourrait diriger au niveau spirituel la Yeshiva. Et ils avaient quelques candidats. Alors, ils sont allés voir les différents candidats, et parmi les candidats, il y avait aussi le Rav Shlomo Zalman Auerbach. Ils sont allés le voir. Il dit voilà, on vous convoque pour ce jour-là, on aimerait vous faire un petit examen, voir. Si vous pouvez être le candidat à être Rosh Yeshiva de Kol Torah. Kol Torah, c'est une des plus grandes yeshivotes qu'il y avait en Israël, une des plus prestigieuses. Bon, il revient de l'examen. Sa femme lui dit alors comment c'était. Je crois pas que c'était vraiment réussi. Ils m'ont posé des questions et je ne savais pas quoi répondre. Quelques heures plus tard, on tape à la porte. Le comité rentre. Nous sommes heureux de vous dire qu'on a choisi vous pour être le Rosh Yeshiva de Kol Torah. Je dis, mais je ne comprends pas. Vous me posez une question difficile dans la Gemara. Je n'ai pas su quoi répondre. Il dit, justement. Le Rav dit, c'est vrai que j'aurais pu répondre comme ça ou aussi comme ça, mais ce n'était pas vraiment 100%. Je dis que je ne savais pas. Vous avez dit que vous ne savez pas, c'est pour ça qu'on vous a choisi. Quelqu'un qui n'a pas peur de dire « je ne sais pas », et à cause de cela, il perd peut-être un grand titre de Rosh Yeshiva d'une réussite prestigieuse de Kol Torah, il mérite d'être Rosh Yeshiva. Il n'y a rien de grave à dire « je ne sais pas ». Rien de grave. Évidemment, si toutes les deuxièmes questions qu'on pose au Rav, il dit « je ne sais pas », il faut qu'il change de métier. D'accord ? Il y a un grand danger. Ça, c'est les rabbanim, ils ont un très grand danger que pour préserver leur honneur, des fois, ils disent n'importe quoi. N'importe quoi. Il faut faire attention. Il faut d'abord être quelqu'un qui sait étudier, qui a un minimum Talmid Chacham pour être Rav. Deuxièmement, il ne faut pas savoir dire. Et c'est légitime. On n'est pas censé tout savoir. Heureux. Heureux la génération dont les grands de la Torah n'ont pas honte de dire « je ne sais pas ». Et chaque fois qu'on a une question en halakha, en Torah, il n'y a pas de camouflage, pas d'hypocrisie. Ça, on fait les choses avec respect. On avance. Fini ? Alors on s'arrête ici. Bah, ou Khadonaï, l'homme, amène, mais.